Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein. Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein. Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein.
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On enchaîne les directs aujourd'hui sur Cause Commune et un petit coucou à Eugénie et Siam et bravo à vous deux pour votre combat. Aujourd'hui, dans Rayon Libre, on va parler du vélo de notaire. Il est 14h, nous sommes le lundi 7 avril et mon ordinateur est en train de me lâcher. Nous sommes le lundi 7 avril 2025. Il est 14h, on est en direct et merci à vous qui nous écoutez, qui relayez, qui commentez, qui nous encouragez aussi, vous aussi qui faites un don pour l'association Libre à Toi qui héberge Cause Commune. Il suffit d'aller sur la page d'accueil de Cause Commune et vous trouverez, laissez-vous guider. Merci à vous. Alors ce week-end, j'animais un moment d'échange entre Thomas Lavi, qui est responsable du design et configurateur chez Origine, et Olivier Roset, directeur général adjoint de Ligne Roset. Vous l'avez peut-être vu passer, cette collab. Il y a une série limitée de 10 vélos produits en collaboration entre ces deux entreprises. Une personne dans le public nous a posé cette question. Est-ce le vélo qui fait le cycliste ou le cycliste qui fait le vélo? J'avoue, je ne sais pas répondre à cette question. Ce qui me semble certain, certains vélos correspondent mieux à certains cyclistes. Et l'inverse, ceci étant dit, j'ai envie de poser cette question différemment. Est-ce que on voit, ressent, apprend sur un vélo de la même façon en fonction de son métier, de sa personne, de son genre? Un géographe qui pédale à côté d'un historien verront-ils la même chose? Et une designeuse verra-t-elle la même chose qu'un designer? Et une avocate et un notaire? Je crois qu'il y a des biais. Je crois aussi que le vélo est intéressant parce qu'il peut être un outil pour atténuer ou prendre conscience de ses biais. Quand on est notaire, est-ce que le vélo peut être un outil pour appréhender l'espace foncier différemment? Le voit-on spontanément avec un œil capitaliste ou est-ce facile de poser un œil solidaire sur ce qu'on traverse? Est-ce le vélo qui permettrait ou est-ce une sensibilité qui se crée, à moins que le vélo propose ceci de beau sur un vélo? Tous et toutes, nous sommes égaux. Adrien Roussel-Jourde est descendu lors du MIPIM, le salon de l'immobilier à Cannes, à vélo depuis Lyon. Qu'est-ce qu'il voit quand il est notaire et qu'il pédale? Que lui apporte le vélo dans l'exercice de son métier? Bonjour Adrien, et merci d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être en studio avec nous. Alors on va commencer peut-être la première partie avec le notaire face au territoire en transition. Vous animez au sein de votre étude le département immobilier à impact. Concrètement, ça veut dire quoi, immobilier à impact dans votre métier?
Merci de me recevoir en tout cas pour parler de vélo. J'étais très heureux de cette invitation.
Ouais, c'est un plaisir.
Toujours sympa de parler de son métier et puis en croisant avec le cyclisme.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé votre intro. Je m'étais posé la question, ouais, un peu posé la question, est-ce que c'est le vélo qui fait l'homme ou l'homme qui fait le vélo? Ça ouais. Dépend du type de vélo. En tout cas, c'est vrai que j'ai choisi cette année d'aller au salon de l'immobilier professionnel, donc qui se tient à Cannes au début du mois de mars, à vélo en partant de Valence. Ce qui m'a permis de passer par des paysages et des régions absolument incroyables, on y reviendra, qui sont doués pour penser l'immobilier et le foncier différemment. Et pour répondre à votre question, immobilier impact, on va se concentrer, en tout cas dans le service que j'anime chez les notaires du Quai Voltaire, à penser l'immobilier avec des valeurs collectives, citoyennes, et pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement.
Alors c'est ce que vous m'expliquiez hein, avant de rentrer en studio, c'est que la notion de propriété propriété foncière, elle est posée sur trois principes, dont la propriété individuelle, c'est ça hein?
Oui, depuis la Révolution, la propriété, elle s'est forgée sur ce biais, vous parliez de biais tout à l'heure, ouais. Sur le vélo, ce biais de propriété individuelle, absolue, et donc... On a cet héritage aujourd'hui qui innerve le code civil et notre rapport, en tout cas en France, à ce mode de propriété qui a ensuite été renforcé par Napoléon, par le cadastre, c'est-à-dire on découpe le territoire hein, ouais. En cases et on met des numéros de section et des numéros de cadastre auxquels on souvent superpose la propriété, le droit de propriété. Et donc ce découpage, petit à petit, bah, il a segmenté, il a découpé l'espace, le foncier.
Ouais.
Et
le sol,
le sol, ouais. Ouais, tout à fait. Le sol, on en est là. Et c'est vrai que après on pourrait disserter parce qu'il y a des thèses de droit, il y a des docteurs en droit là-dessus qui passent leur temps, et c'est admirable, à réfléchir à ces fondements philosophiques du droit. En tout cas, aujourd'hui, on est tributaire de cette approche de l'espace, et parfois ça rend l'approche de propriété collective assez compliquée. On est obligé de penser des mécanismes de détention, de co-détention, de co-possession du monde, qui sont nouveaux et pour lesquels il faut être imaginatif. Et là, les notaires excellent là-dessus, puisque c'est le métier du sol, c'est le métier du foncier, hein, le notaire, avant tout.
Et alors vous êtes, je dirais, un notaire à vélo. Quand vous traversez de Valence à Cannes à vélo, ces territoires, les contreforts des Alpes, hein, je crois que vous êtes passé par là, vous avez vu un peu de la neige, etc. Qu'est-ce que le fait de vous déplacer à vélo ou d'y aller à vélo vous apporte dans l'exercice de votre métier? Et au-delà de l'exercice de votre métier, c'est la philosophie, puisque c'est un terme que vous venez d'employer, la philosophie que vous pouvez appliquer à un métier qui s'appelle notaire.
Oui, c'est vraiment ça. L'idée aussi, c'était de faire un petit pas de côté. Déjà, partir 4 jours, y aller...
Prendre votre temps, quoi. Profiter, kiffer.
Kiffer, bien sûr, déjà. Kiffer, déjà, on va pas se mentir. C'est clairement ça. Après, c'était pas un pied de nez, mais un petit défi aussi de dire, bon, ben, on va au salon de l'immobilier professionnel mondial,
ouais,
à vélo,
ouais,
en moyen de mobilité douce. On prend son temps, on prend 4 jours pour y aller, on saute pas dans un train, on saute pas dans un avion.
Ouais.
Et on traverse des territoires qui sont un peu des anti-MIPIM. Alors, des anti-MIPIM, pourquoi? Parce que ça avait des territoires ruraux, pour la plupart.
Ouais.
On commence donc de Valence, on prend cette vallée magnifique de la Drôme, on s'enfonce dans le Diwa, on passe le Dévoluy.
Ouais.
Déjà, ça commence à sentir bon la montagne, on voit les premières neiges arriver. Et puis, on arrive à Serpenson ensuite, au lac de Serpenson. Ceux qui prennent le train de nuit pour Briançon se réveillent peut-être à ce moment-là. Et on entame, on remonte la vallée de Lubaye. Là, j'ai été bloqué par la neige,
ouais,
comme vous le disiez. Et donc, j'ai dû m'adapter, c'est ça aussi qui est génial dans la baroude, m'adapter et repasser par le col de Vars, où là, on passe à 2300. Et 2300, on croise les skieurs sur les pistes et on,
ouais,
passe à vélo.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était, au-delà du caractère inattendu, du défi sportif, c'est génial d'arriver sur des pistes à vélo et de se dire, en fait, je suis comme un chien dans un jeu de quilles. Avec des skieurs qui te regardent passer avec ton vélo. On m'a dit que j'étais le premier à passer le col de Vars cette année. Ça m'étonnerait, mais voilà, il y a ce côté assez décalé qui m'attirait, et puis traverser ces territoires qui sont, comme je vous disais, des anti-MIPIM par leur manière de faire et de penser la propriété.
Mais alors justement, là, ça me rappelle, on a reçu ici au micro Guillaume Autrage, qui lui est parti rejoindre la COP29 à vélo depuis Paris jusqu'à Bakou, qui est arrivé dans cette COP29 à Bakou, bah clairement, complètement d'une manière anachronique, je dirais, complètement vraiment énorme pas de côté. Vous ressentez, alors évidemment, vous n'êtes pas dans la tête de Guillaume Autrage, mais quand vous arrivez au MIPIM à Cannes, vous arrivez à vélo dans ce salon mondial de l'immobilier, vous arrivez, vous avez l'impression d'être décalé, vous avez l'impression de mettre le doigt sur quelque chose. Comment vous vivez ça?
Modestement, parce que sur 4 jours par rapport, oui, à Guillaume, je crois que Bakou, c'est une autre paire de manches. Mmh. Là, c'est avant tout des vacances, c'est avant tout un moment de kiff, comme vous avez dit. Mais quand même, le post LinkedIn que j'ai fait, que je me suis forcé à faire pour raconter ça, a eu une petite audience, et il y a pas mal de gens au MIPIM que je croisais, dans des clients, dans des partenaires, qui étaient « Ah, sympa ton aventure à vélo !» Donc je me dis que ça crée quelque chose. Ça crée, ouais, ce petit effet boule de neige, et pas mal de gens, et ça c'est génial, m'ont dit « L'année prochaine, on le refait ensemble.
Ouais. »
Donc l'année prochaine, Jérôme, vous êtes le bienvenu pour faire Valence, le MIPIM.
Pour venir raconter ça.
C'est ça.
Parce que je sais qu'il y a aussi un départ de Paris à Cannes, de gens de l'immobilier, mais qui est très structuré autour d'un peloton, autour d'une infrastructure, des voitures suiveuses, etc., etc. Vous, c'est pas cette philosophie-là. Vous, c'est de la philosophie, c'est en autonomie complète, presque, ou même vous étiez en autonomie complète, et puis de vous débrouiller tout seul comme un grand. Et là, vous allez vous débrouiller tout seul, tous ensemble, et toute seule, tout ensemble comme des grands et des grandes.
Exactement. Les cycles de l'immobilier, c'est génial. C'est une association. Ils récoltent des fonds, ouais, pour des assos géniales. C'est quand même une randonnée caritative.
Ouais.
Donc, c'est fantastique ce qu'ils font. Derrière, c'est vrai que c'était un peu plus une approche nuée culottée, si vous connaissez,
ouais, déjà,
la référence.
Ouais. Ouais.
C'était de se dire, allez, pendant 4 jours, on pose le portable, on va au salon de l'immobilier, qui est quand même un rendez-vous très important pour les notaires dans l'année.
Ouais.
En tout cas, pour mon étude. Et voilà, je suis parti sans sac de couchage, je me suis dit je prends aucun hôtel,
oui.
Donc ça favorise aussi les rencontres, et le premier soir j'arrive dans un café vélo dans le Dévoluy, à Veynes en Dévoluy,
oui.
Un petit village, il est 20h30, il fait nuit, et je pose le vélo sur la devanture, et je me rends compte que c'est un café vélo qui organise une soirée, ce soir-là, une soirée de danse, il y a des vélos partout. Enfin, c'est dingue. Et donc, tout de suite...
Ça s'appelle même pas la chance, c'est la classe.
C'est la classe, ouais. Ouais.
Et donc, vous passez la soirée avec eux.
Mais je passe la soirée avec eux, avec Jérôme, d'ailleurs, ouais. Le patron, qui m'invite hyper spontanément. Être seul aussi, ça crée ça. Ouais. Ça, c'est le voyage seul. Je l'ai pas beaucoup éprouvé, mais c'est la deuxième fois que je l'éprouve sur des temps comme ça, 4-5 jours, une semaine. Et en fait... C'est facile. Il m'a vu arriver en cycliste. Il m'a dit c'est une soirée privée. On danse le foro ce soir. C'est une danse brésilienne. Oui, oui. Ils étaient une dizaine à danser le foro et c'était une expérience vraiment nuit et culottée puisque j'ai dansé en cycliste le foro. J'avais pas d'autres d'autres pantalons. Et j'étais avec
Vos chaussures à pédales.
Mes chaussures à pédales.
Vous dansez comme un canard donc.
Donc voilà, je dansais comme un canard. J'ai lâché les chaussures et en chaussettes, on a dansé le foro jusqu'à 22h30. Et après, des amis d'amis m'ont accueilli chez eux à Veynes en Dévoluy. En m'écrivant à 22h30, désolé, on n'a pas vu tes messages, tu viens chez nous, bien sûr, il y a un lit pour t'attendre, enfin voilà, c'est génial.
Pour revenir un peu quand même à votre métier, à notamment ce que je peux lire sur votre profil LinkedIn, hein, et d'ailleurs on peut le dire aux invités, c'est comme ça que je vous ai trouvé, c'est dans mon fil, votre expérience, votre aventure, elle apparaît dans mon fil, et je me dis, ah bah tiens, ce qu'Adrien Roussel-Jourda a proposé, ça m'intéresse, et on va faire un pas de côté. Donc pour revenir là-dessus, vous racontez que vous faites la fabrique de la ville bas carbone, ce qui est un terme fort, hein. Comment le notaire, est-ce qu'il peut contribuer à cette nouvelle fabrique, à cette nouvelle ville?
Alors, le notaire, il va contribuer à cette nouvelle ville, puisque c'est une des spécialités du notariat, c'est l'immobilier,
oui.
À côté du droit de la famille et des successions, oui. Que je laisse de côté, donc. Et notre profession, depuis longtemps, a inventé, s'est mouillée lors de congrès, lors de rapports, lors de préconisations auprès des députés, pour des projets de loi qui permettent une transition de la ville et oui. Une fabrique de la ville différente.
Oui.
Donc, il y a des termes très juridiques, l'idée, c'est pas de rentrer là-dedans. Mais depuis peu, là, le dernier congrès des notaires, c'était vers un urbanisme durable.
Oui.
Depuis peu, quand je dis peu, c'est une dizaine d'années, 5 ans, on voit la profession à bras-le-corps se saisir de cette question d'une ville bas carbone, d'une construction de la ville sur la ville, de la transformation de bureaux en logements, interroger oui. Les usages, interroger l'hybridation, comment on peut créer des bâtiments mixtes, des bâtiments où on se croise plus, où on se rencontre oui. Plus, etc. Et pour ça, il y a tout un cortège et un panel de solutions juridiques, d'évolutions dans la loi qui doivent être prises, hein, bien sûr.
Oui.
Et puis, après, avec les juges, la doctrine, la jurisprudence aussi, essayer que la loi se tricote et s'interprète en faveur de nouveaux usages et donc d'une pratique de la ville qui soit plus raisonnée et qui soit plus durable. Donc il y a la ville bas carbone, il y a aussi l'immobilier collectif, l'immobilier solidaire.
Oui.
Et là, en tout cas, lors de cette randonnée, c'était plutôt cet immobilier-là, puisque dans ces territoires ruraux, la ville bas carbone, elle existe, elle se pense notamment avec le ZAN, le zéro artificialisation
oui.
Net,
oui.
La manière dont on va consommer l'espace et manger le territoire, mais elle se pense aussi en termes de solidarité et d'aventure citoyenne, où plusieurs citoyens vont co-détenir, co-posséder de l'immobilier ensemble.
Via l'immobilier ou du foncier, ça aussi, ça peut aussi être calé sur de l'alpage ou sur une rivière, hein, c'est ce que vous m'expliquez.
Voilà, ouais, sur des rivières, sur des alpages, sur des forêts, ouais. Sur des bâtiments, sur des logements, on peut tout imaginer. Et même sur des navires, il y a une foncière là, donc qui est en train de se monter, une coopérative pour détenir des petits chalutiers de pêche écologique.
Ouais.
Pour d'accord. Les co-posséder. Et donc là, on voit que ça s'invite même sur des meubles. C'est ça qui est drôle.
Et là, pour le coup, le notaire, il a une fonction là-dedans où il va faire évoluer la loi, mais vous pouvez accompagner des pêcheurs ou des propriétaires de bateaux qui vont détenir un bien qui s'appelle un chalutier pour qu'il soit détenu en collectif. C'est ça?
Voilà. Le notaire, il va penser l'architecture très en amont. Ouais. Comment on va monter cette société ouais. Coopérative grâce à des avocats. Et puis en partenariat avec des avocats. Et ensuite, il va passer les actes liés à la propriété, les actes d'acquisition et les actes de vente de ces bateaux ou de ces fonciers. Et là, il y a un certain nombre de clauses pour innover, pour renforcer une sécurité juridique et inviter, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, à des nouveaux mécanismes de solidarité et d'usage. Parce qu'en fait, quand on parle de propriété, on peut très bien superposer sur la même propriété différents usages. Et là, la révolution un peu sémantique qui est en train de se passer, c'est qu'on se rend compte que le droit est en train de créer des actes, donc notamment des actes notariés, pour faciliter des usages, prioriser des usages par rapport au fait de détenir.
Ouais.
Donc
c'est la solution du Vélib, par exemple, ou du vélo qui est en libre service et qu'on va privilégier l'usage plutôt que la propriété. Peut-être que vous pourrez nous accompagner pour détenir tous ensemble d'une manière collective des vélos. On en reparle après la pause musicale. Il est 14h15, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes sur Cause Commune, vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes avec Adrien Roussel-Jourde qui est notaire, solidaire, cycliste. On va s'écouter un truc un peu vieux mais qui est tellement bien, Bam Bam de Sister Nancy. On se retrouve dans 3 minutes. Ambition, so I make who them a talk about me. Ambition, come in, so some of them a ask me where me get it from. So some of them a ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey yo, what a bam, 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 dilam, bam, 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 dilam, bam, 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 hey, what a bam, bam. Je n'y pas, nous voilà de retour, c'est Rayon Libre avec Maître Adrien Roussel-Jourde qui est notaire, cycliste, engagé dans une démarche portée autour du vélo ou peut-être même une démarche qui est affinée grâce à sa pratique du vélo. Adrien, quand on préparait l'émission, vous me disiez que pour vous le vélo est une sorte d'animal politique. Ça veut dire quoi quand un notaire me dit que le vélo est un animal politique?
Déjà, je faisais appel à des souvenirs et à des documentaires, puisque j'ai regardé un documentaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La République de Juillet,
oui.
Où on suit la fabrique, les coulisses du Tour de France,
bien sûr.
Avec Christian Prudhomme, qui est quand même...
Donc Christian Prudhomme, pour les éditeurs, auditrices qui ne savent pas, c'est le directeur du Tour de France.
Et c'est quand même un des seuls hommes en France qui passe une journée entière avec le ou la président de la République, dans une voiture le 14 juillet. Mmh. Et voilà, on imagine Emmanuel Macron, c'est le genre de personne qui a une heure, une demi-heure max.
Ouais.
Là, c'est une journée entière avec Christian Prudhomme à parler de la fabrique des territoires, de la ville, des élus. Tiens, vous êtes passé à Cahors cette année, à le maire de Cahors. Là. C'est un animal politique. Alors, via l'aspect Tour de France que je suis depuis que je suis tout petit et que j'apprécie beaucoup, culturel, bien sûr, et politique dans la fabrique des territoires, parce qu'on se rend compte que le vélo, il a métamorphosé les territoires, les entrées de ville, les pistes cyclables, il a obligé les élus à intégrer dans les documents de planification urbaine des trams pour les vélos, donc des espaces pour les vélos, des pistes cyclables. Enfin, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'il y a assez de place pour le vélo en ville? En plus, à Paris, il y avait le Paris d'Hidalgo, c'est le cas de le dire, qui, je crois, est un pari absolument réussi par rapport à tous ses détracteurs, et donc qui va faire tache d'huile. Et je vous racontais qu'à la fin de l'épopée, enfin l'épopée modeste, mais en arrivant à la fin, en passant par Briançon, je reprends le train finalement pour passer les Alpes jusqu'à Marseille. En arrivant à Marseille, alors que pendant 4 jours, c'était un délice de rouler sur des voies où il y avait personne. Dans la montagne, j'étais seul pendant l'école. Là, j'arrive à Marseille et j'ai manqué de mourir 3 fois. Parce que sorti du taf, 17h30, il pleut, donc il pleut rarement à Marseille, donc la rue est hyper grasse, et je suis avec mes clips, et j'ai terminé à pied sur le vieux port. Parce que, pas adapté, trop dangereux, et je me suis dit, ça.
Mais est-ce que c'est pas vous, à ce moment-là, qui avez un biais, qui revenait, sincèrement, qui revenait de 3-4 jours dans l'école, tout seul, c'est bucolique, c'est beau, etc., etc., et qui est arrivé, qui est posé là, au milieu de la ville, et qui est finalement dans une pratique absolument inadaptée de
vélo de
course.
Ouais, bien sûr, complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je suis passé à pied, parce qu'il y avait plein de vélos cargo, des vélos robustes, faits pour la ville, et je crois que Marseille a complètement changé de configuration grâce au vélo aussi. Donc, mais c'est un animal politique. Force est de constater qu'il y a quand même peu de pratiques qu'on fait bouger des villes en aussi peu de temps que le cyclisme.
C'est intéressant, vous dites que vous prenez le train depuis les Alpes jusqu'à Marseille, vous n'avez pas eu de difficulté à mettre votre vélo dans le train?
Ben si.
Parce que c'est un autre sujet, ça, c'est un vrai sujet aussi.
Ben là, il y a un vrai sujet, et puis on voit aussi la patte politique des régions traversées avec le train, puisque les trains pour l'Ouest, il y a moins de sujets dans les TGV. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, pour mettre les trains.
Il y a moins de place, vous voulez dire?
Non, il y a moins de sujets.
Facile,
c'est plus facile.
Oui.
Alors que la ligne qui va à Marseille en passant par Valence, c'est plus compliqué. Alors, à part les TER et les intercités qui ont toujours été très bien foutus pour ça, un TGV, ça reste la grande question. À quand une rame pour pouvoir justement favoriser la mobilité douce en arrivant avec son vélo ou le vélo qu'on a loué, hop, je le pluguais dans le train en arrivant une demi-heure avant. Avant, il y avait les autotrains aussi, on mettait sa voiture sur le train. J'imagine, alors ça devait perdre de l'argent. Il y a forcément des explications économiques. Mais c'est vrai que derrière, il peut y avoir des risques d'amende, et puis c'est toujours un petit stress.
Ouais.
On arrive au portique, là, on est avec son vélo, on le démonte,
Revenons à votre métier et votre vision de votre métier en tant que notaire. Vous parliez aussi d'un équilibre, en tout cas dans votre périple, un équilibre entre la vitesse et la lenteur à vélo. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre perception des territoires traversés, le fait d'être à vélo?
Oui, je disais qu'il y a un équilibre entre la vitesse et la lenteur, puisque pour moi, quand même, pour rencontrer un territoire, il n'y a rien de mieux que la marche, qui est le parfait. Mais force est de constater qu'avec un vélo, on couvre des distances et des territoires en une journée, on mettrait 10 jours à couvrir avec la marche, à plus forte raison en montagne. Et du coup, cette approche est vraiment facilitée. Dans la même journée, pouvoir voir 4 cafés différents, passer devant 4 auberges de jeunesse différents, pouvoir s'arrêter dans 4 PMU, prendre un verre, un ravito, sans vouloir toujours tout emmagasiner, de 9h à 18h, là en hiver, on traverse différents territoires et on voit un patrimoine historique, culturel, des petits villages, des églises, c'est incroyable. Alors, on se couche le soir, on est vanné et on a vécu une typologie, une diversité d'espaces. On a parcouru une diversité d'espaces et de territoires qui est dingue.
Est-ce que ça vous nourrit intellectuellement dans vos je suis en train de m'étouffer, dans vos réflexions et dans votre façon d'appréhender votre métier de notaire? Alors j'ose le mot notaire solidaire.
Oui, parce que j'essaye au moins 2 fois par an, 3 fois par an de prendre le vélo pour aller voir des clients aussi. Faire le tour de ces foncières, de ces collectifs, de ces coopératives d'habitants qui sont disséminées partout en France, qui inventent un nouvel immobilier solidaire, vous l'avez dit, Et y aller à vélo, ça permet de joindre l'utile à l'agréable, de caler un week-end derrière dans le Vercors, on y retourne avec des amis, et je repasserai voir quelques clients et quelques amis là-bas qui pensent que foncer différemment. Et en fait, ça combine les deux, c'est parfait. Ouais. Enfin, c'est clairement quelque chose qui m'alimente, ouais, ma pratique.
On va s'écouter Abel Guggenheim parce qu'il est 14h24, vous êtes toujours sur Rayon Libre. Donc la chronique d'Abel Guggenheim, ben, il est un peu sur un sujet là que vous avez abordé aujourd'hui. Il revient sur une autre forme de violence, celle insupportable subie par les élus qui sont pris en tenaille d'un côté par les militants vélo et de l'autre les militants du non-changement. Vous abordiez un peu le sujet, Maître Adrien. Une pensée quand même avant d'écouter Abel, pour tous les élus, quel que soit leur avis sur le vélo. Abel, à toi la parole.
Bonjour. Pas facile d'être élu local aujourd'hui. La bataille des prochaines élections municipales commence et les médias nous parlent beaucoup des rivalités qui s'affrontent pour occuper certains postes. On nous parle aussi, mais moins, de maires qui démissionnent, de difficultés à certains endroits pour trouver des candidates et des candidats pour le scrutin de 2026 dans un an. Être maire, adjoint ou adjointe, ou même simple conseillère ou conseiller est un travail difficile, prenant et sauf quelques postes, peu indemnisés et même parfois pas du tout. On pourrait même se demander par quel miracle certaines personnes s'engagent cependant dans cette voie. Deux exemples en région parisienne en rapport avec le vélo ont récemment attiré mon attention. Dans un cas, il s'agit d'un maire réputé pas très favorable au vélo. Un cycliste est décédé dans un accident dans la commune et le père de ce cycliste poursuit le maire de sa vindicte. Des journalistes de télévision accompagnent ce père dévasté lors d'un conseil municipal et prennent des images, ce que rien n'interdit. Mais l'ambiance se tend, des employés municipaux interviennent avec violence, si l'on en croit les images parues sur les réseaux sociaux, et le maire s'emporte. Il déclare ensuite se mettre en retrait, reconnaissant implicitement sa faute et celle des personnels municipaux. Dans l'autre cas, c'est un maire qui, à l'inverse, semble plutôt favorable au vélo et a comme projet de mettre une rue à sens unique pour la circulation générale, d'y aménager un contresens cyclable avec des séparateurs en béton pour protéger les cyclistes et d'y limiter la vitesse à 30 km/h. Des inscriptions en lettres rouges apparaissent alors sur les portes et les murs de la direction des services techniques de la commune. Non à la mise en sens unique, vous louez la guerre, vous l'aurez, faites-le, on brûlera toutes vos voitures et les engins de chantier. Le maire philosophe explique « Ces menaces sont symptomatiques du climat actuel, je ne suis pas vraiment surpris. Être élu aujourd'hui, c'est potentiellement se faire attaquer sur n'importe quel sujet, même un aménagement cyclable. La violence verbale se propage, elle est institutionnalisée et se diffuse. » Je précise que je ne connais que superficiellement les deux affaires uniquement parce qu'en écrivent certains médias et des discussions internes. Mais j'ai eu souvent l'occasion d'échanger avec de nombreux élus de tous bords et je respecte leur engagement, même lorsqu'il est différent, de mes options militantes et ou politiques. Je lis les réactions de mes amis cyclistes, indignés par le comportement du maire dans un cas, mais prêts à voler au secours de l'autre maire, même si cette intervention ne lui serait sans doute pas utile et même sans doute préjudiciable. Je les comprends dans les deux cas, mais je pense aussi au maire, à sa personne, à ce qu'il ressent. Le premier maire a lui aussi accidentellement perdu un fils, et on se trouvait malencontreusement à la date anniversaire de la mort de ce fils. Personne d'entre nous n'est à l'abri de ce type de réaction humaine. À lundi prochain.
Cause commune, la voix des communs.
C'était Abel Guggenheim. Une dernière question. Merci Abel pour cette chronique qui est hyper juste encore une fois. Une dernière question pour vous Adrien Roussel-Jourde. Est-ce que vous vous sentez de la résistance et si oui, quelle est la forme de cette résistance dans votre approche solidaire ou collective du foncier?
La chronique était super, termine par la voix des communs.
Ouais.
Je sais que chez Cause Commune, c'est un peu votre slogan.
Ouais.
Le risque que je vois, et je pense que c'est un risque infondé, une résistance, c'est la peur, mais là on tombe vraiment dans la politique, c'est pas du tout mon domaine, de qui dit commun, on n'est pas très loin de communisme. Et ouais, ça agite ce genre de résistance. Ah bon, ben alors, ça y est, on collectivise tout. Alors que c'est pas du tout ça, c'est on co-possède tout pour des lieux d'utilité sociale et d'intérêt général.
Merci beaucoup Adrien. L'année prochaine, le départ pour le prochain MIPIM, c'est...
Allez, rendez-vous à Valence, la même chose.
Mi-mars, c'est ça?
Ah ouais, mi-mars.
Eh ben, allez, rendez-vous est pris. Auditeurs, auditrices, ça y est, ce Rayon Libre est terminé. Ouvrez les yeux, observez, n'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre temps et vos éclairages, Adrien. Et puis, je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Rayon Libre.
Qu'est-ce 93.1, Cause commune, 14h30 dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires. Ciao, bye bye.